Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club avec une semaine très spéciale puisque ça va aboutir sur un événement exceptionnel. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce qu'il vous déplaît? Est-ce que les combats vous plaisent? Est-ce que vous avez hâte de voir tout ce qui va se passer autour de cette UFC Freedom 250 en direct de la Maison Blanche? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec notamment évidemment le combat de Cyril Gane contre Alex Pereira et puis le main event Topuria contre Gaethje. Pour en parler évidemment, le pilier du RMC Fighter Club, Baba, qui revient après des petites vacances. Comment ça va, Baba?
Salut Charles, ça va?
Ouais, ça va et toi?
Oui, c'est très bien, super.
En pleine forme?
En pleine forme.
Pour ceux qui te sur Insta, on a pu voir que voilà un bon stage de boxe,
ouais.
Une bonne mise en forme pour attaquer forme, cette grosse semaine.
J'en avais marre de plus être en forme, de plus être un sportif. Donc merci à mes amis et coach Nabil et Faisal,
ouais,
pour ce très très bon stage à Essaouira.
Donc tu te reconsidères comme un sportif, c'est bon?
Là c'est bon, ouais.
Je
c'est
sens
bon.
Que le mental il arrive à buter ce matin. J'ai senti qu'il y avait un mental d'acier.
Ouais, ça y est, on est bien.
Un peu le regard ténébreux, etc. On sent que t'es prêt à en découdre. T'es chaud pour cette semaine, toi?
Ouais, bah franchement, ça y est, on a tout dit. Il faut maintenant analyser les combats et tout ce qu'il y a avec, mais en vrai,
ouais,
c'est quand même un sacré event.
Ouais, ça va être un très gros event. Si vous voulez, on a fait un épisode la semaine dernière très intéressant, à mon sens, avec Aurélien Duhart, hein, légende du pied-point, qui a analysé techniquement principalement le combat entre Cyril Gane et Alex Pereira, évidemment deux anciens kickers, deux anciens Nakmoué, et donc qui vont s'affronter. Donc un duel très intéressant avec l'œil expert d'Aurélien Duhart. Rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube pour retrouver cet épisode. Et d'ailleurs, on vous le redit, tous les épisodes ne sont pas forcément publiés sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music si vous voulez suivre tous les épisodes du RMC Fighter Club. Et donc aujourd'hui c'est parti pour une preview plus globale de cette UFC Freedom 250. C'est parti. Baba, évidemment, beaucoup de choses à dire sur les 7 combats notamment qu'il y aura sur cette carte principale. Pas de carte préliminaire, pas de early prelim, simplement une carte principale avec deux ceintures en jeu, donc celle de Gane contre Pereira et celle de Topuria contre Gaethje. D'abord, très rapidement, on a une mauvaise nouvelle pour le clan français ce week-end avec Fares Yam qui s'est incliné. On va en parler une minute pour faire un clin d'œil et donner beaucoup de force à Fares pour son retour. Il l'a déjà dit, il aimerait être à l'UFC Paris. Ça va être compliqué parce qu'il risque, on aura les classements dès le mardi, mais il risque de sortir du top 15.
Il y a des chances que son adversaire prenne sa place, ouais.
C'est ça, ouais. Tom Nolan qui risque de rentrer dans le top 15. Et donc, Fares, ça prouve aussi le courage qu'il a eu d'accepter ce combat parce qu'il avait envie d'activité avant l'UFC Paris. Finalement, ça s'est mal passé. On attend peut-être aussi des explications, mais en tout cas, ça risque d'être. Il va faire plusieurs pas en arrière après les 6 combats qu'il avait réussi à gagner d'affilée, à rentrer dans le top 15. Il risque d'en sortir et pour y re-rentrer, ça va être très compliqué.
Ouais, c'est chiant parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour Fares pour arriver dans cette position-là. À l'annonce de ce combat-là, tout le monde du MMA français et même les observateurs américains étaient surpris que Fares n'est pas un adversaire au-dessus de lui. On sait tous qu'entre 15 et 30 à l'UFC, c'est bourbier sur bourbier. Tout le monde est fort et tout le monde a le niveau du top 15, en fait. Tu vois.
Ouais.
Donc Tom Nolan avait déjà le niveau du top 15. Il l'a montré en faisant ce combat contre Fares. Ouais, ça fait chier parce que c'est un combat que Fares a accepté. Une fois qu'il a accepté, il n'y a plus rien à dire. Il l'a fait et il devait aller le faire. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il n'a pas eu... Il n'a pas été traité comme il fallait, Fares, et maintenant il faut un peu recommencer, entre guillemets, il faut en gagner au moins un minimum. Mmh. Je ne sais pas s'ils redonneront un combattant classé, ça va être difficile. Mais voilà, en tout cas, c'est un guerrier, Fares, évidemment. Et voilà, on l'attend à l'UFC Paris et on espère qu'il va vite rebondir.
C'est vrai, là je me dis, Baba, que forcément, comme déjà il était dans le top 15, et il lui avait promis un mec qui était classé plus haut. Et ils lui ont donné un mec qui n'était même pas classé, qui était Fight Matrix, plus de 150, qui est passé 119e, je crois, avant le combat, et qui reste du coup de passer top 30, certainement Fight Matrix. Mais du coup, une fois qu'il sera sorti du top 15, ça m'étonnerait qu'il lui donne un mec classé derrière.
Bah, ça m'étonnerait. Ils ont fait ça avec d'autres gars, hein, mais ce n'est pas des gars comme Fares, c'est des gars qui ont de la hype. Je pense à Mauricio Rufi, qui perd contre BSD, on lui donne un combattant encore mieux classé par la suite, tu vois, donc parce qu'il y a tout le business des Fighting Nerds autour et de ce que Rufi a pu créer en termes de hype, donc, donc ouais, encore une fois, ça fait chier parce que Fares fait ses choix, évidemment, et on peut que les respecter, mais c'est très difficile de s'empêcher qu'au niveau management, voilà, il y a eu un problème.
Ouais, il y a un problème. Voilà. Faziam qui est avec Ali Abdelaziz, qui est en théorie hein, le manager le plus influent auprès de l'UFC.
Ouais, mais ça, c'est, là... pas, ça c'est des postures. Il n'est pas influent parce qu'il accepte tout.
Et ouais, voilà, c'est ça.
Influent parce qu'il a plein de combattants, mais il n'y a pas de négo là-dedans.
Et rappelons quand même la circonstance pour terminer sur Faziam. Il a dit lui-même qu'il avait refusé Renato Moicano parce que c'était trop proche de la date de fin du Ramadan et que du coup, ce n'était pas des conditions optimales pour pouvoir se préparer. Et du coup, il avait accepté Tom Nolan derrière. C'est en tout cas ce que Fares avait dit chez AMC Sport. Ouais. Et donc, voilà, les circonstances ont fait que Tom Nolan, finalement, Fares qui disait lui-même qu'il était un bourbier, Tom Nolan était aussi un bourbier pour Faziam.
Ils le sont tous, encore une fois.
Ouais, ouais, ils le sont tous dans ce petit mouchoir de poche, parce qu'il était quand même sur 4 victoires d'affilée avant Fares, Tom Nolan au sein de l'UFC, donc forcément...
Le combat se joue sur pas grand-chose, Nolan fait très bien son travail. Ouais, c'est ça, il joue bien son coup, Tom Nolan. Après, Fares, il est bien dans le deuxième round, parce qu'il glisse, il y a cette petite glissade.
Ouais,
là,
ça on sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là encore.
Ouais. Mais qui change la physionomie du combat et qui permet à Tom d'accrocher ce qu'il lui faut pour gagner, donc ça se joue pas grand-chose. Mais les conséquences, elles sont reloues.
Ouais, et tu parlais des nerds et des hypes qui peuvent être liés à certains combats qui sont proposés. Je crois que l'UFC a déjà annoncé qu'il y aurait un nouveau système de classement et de notation pour les classements. Ce sera l'occasion d'en reparler quand on aura un petit peu plus de détails. Mais ils ont parlé de plus de respect de ce qui se fait sportivement dans la cage. Donc on verra si effectivement c'est le cas et que ça fait déjà rire Baba. Ça, je sais que c'est les sujets que t'aimes bien, ça.
Oui, bah, j'aime bien quand ils continuent à mentir et qu'ils continuent à faire des effets d'annonce et qu'ils mentent depuis déjà plusieurs années. Donc voilà, on verra. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on verra, mais je n'y crois pas du tout.
Bon, voilà, bon, moi j'ai un peu d'espoir. Je garde une petite lueur d'espoir, mais on verra si.
Vu le n'importe quoi qu'ils font depuis le mois de janvier là, et le deal avec Paramount, je vois vraiment pas pourquoi ils reculeraient. Là. Alors ça marche pour eux financièrement.
Bon, en tout cas, Paramount qui risque d'être très heureux dans la nuit de samedi, dans la nuit de dimanche à lundi d'ailleurs.
Ouais.
Parce que l'UFC Freedom 250, tu vois, j'avais tellement le réflexe de dire dans la nuit de samedi à dimanche que du coup, j'en ai perdu mon latin. Dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ce sera sur AMC Sport à partir de 1h du matin. Je vous récapitule très rapidement un peu tout ce qui va se passer, parce que dès 21h il y aura le Sunday qui sera évidemment comme tous les dimanches en direct avec Flora Moussi qui sera sur place à Washington. Là elle est peut-être dans l'avion, en tout cas elle est en train de partir pour Washington pour vous faire vivre toute cette semaine. Il y a plein d'émissions qui arrivent aussi toute la semaine, suivez bien les réseaux sociaux AMC Sport Combat. Et donc dans la nuit de dimanche à lundi, dimanche soir aux États-Unis pour l'anniversaire de Donald Trump, c'est UFC Freedom 250 avec les 7 combats dont on va parler aujourd'hui. D'abord sur l'organisation un peu globale, t'en es où au niveau de la hype, toi, Baba? Est-ce que moi je te le dis, plus ça s'approche et plus j'ai envie de le voir.
Oui.
J'avais un peu critiqué l'événement, surtout sur la fight card, en disant j'aurais aimé au niveau de l'annonce un McGregor, un John Jones. On avait dit ici que c'est peut-être MVP qui avait fait la carte que l'UFC aurait dû faire à la Maison Blanche en mettant des Ngannou, en mettant des Ronda Rousey. Finalement, plus ça approche et plus je suis chaud pour cet événement. Et là, je commence à vraiment avoir l'excitation en me disant on va travailler dessus. Mais tu vois, je me dis, ça, c'est l'événement que j'aurais vraiment voulu regarder avec des potes, pizza, popcorn, etc.
Ouais, c'est clair. Non, mais enfin, on avait dit effectivement par rapport à l'annonce du combat versus ce qu'ils avaient annoncé, ce qu'ils avaient hypé en termes d'événement le plus incroyable, la carte la plus folle de tous les temps. Bah, c'était pas le cas. Enfin, c'est constaté que c'était pas le cas. Ceci étant dit, c'est une très bonne carte dans le sens où ils l'ont construite avec quasiment que des action fighters. Il y a que des combattants qui avancent, qui frappent, il y a des punchers. Enfin, ça devrait faire beaucoup. La plupart devraient être des bons combats normalement. Et tu peux pas ne pas être hypé pour ça. Donc moi, je rentre dans cette Fight Week comme en sachant que j'ai un excellent numéroté qui m'attend ce week-end, en plus plus court. En vrai, c'est pas si mal que ça.
C'est vrai. Ouais.
Et je pense qu'on va bien s'amuser. On devrait bien s'amuser. Les combats sont vraiment cool.
Ouais, les combats sont très cool. Et effectivement, bah, la carte a été bien montée avec aussi des ajouts, notamment le Hokit Lewis qui avait été ajouté un petit peu au dernier moment. D'ailleurs, j'ai vu passer aussi que Hokit Lewis ne serait pas à la conférence de presse.
Ouais, finalement, ce sera le cas.
Ouais, finalement, ils vont venir, ça a changé, d'accord.
Soit disant, c'était une erreur. J'imagine qu'ils ont dû passer un coup de fil à Josh Hokit pour lui dire on peut ne pas te mettre si tu joues au con.
Donc tu te calmes un peu.
Parce que cette conférence de presse, Charles, moi je crois que ce sera pas une conférence de presse ordinaire.
Ouais.
Pour plein de raisons. Bah, déjà, ce sera au Lincoln Memorial, je crois.
Exactement.
Et pour éluder d'ailleurs la question, il y a deux habitants de Washington qui ont déposé une plainte pour faire annuler l'événement. Ils ont, en avançant les arguments que ça respecte pas le plan d'urbanisme, l'environnement, de faire ça sur la pelouse de la Maison Blanche. Et puis surtout, ils attaquent le fait que Trump et Dana White vont se remplir les poches de façon personnelle et que c'est pas censé être le cas. Donc la Maison Blanche a répondu que c'était une attaque infondée, etc. Enfin bref, je voulais qu'on soit complet là-dessus. La conférence de presse.
J'espère quand même que les deux gars sont armés financièrement. Parce que quand t'entames, pas que et armés tout court. Je sais pas si à Washington
à
les
armes. Après l'event, deux trois contrôles.
Parce que t'imagines quand même, tu t'attaques juste à l'État américain, à Dana White, à Donald Trump. Faut vraiment y aller armé.
Ils sont très courageux. Respect. Ouais, je crois pas du tout qu'un juge annulera l'event à 4 jours. Mais en tout cas, respect.
En termes d'influence, bon.
Mais ouais, et la conférence de presse surtout, et c'est là où ce sera très intéressant, parce que je vais pas te mentir, hein, à part quand je travaille, je les suis pas vraiment les conférences de presse, parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes réponses. Je suis un peu fatigué que Dana White me dise que je devrais en avoir rien à foutre de certaines choses, etc. Sauf que là, ce sera pas les mêmes médias, Charles. Ouais. Pour cet événement-là, ce sera pas les mêmes médias. Ce sera pas MMA Junkie, etc. Même si j'ai du respect pour tout le monde, là, ce sera tous les gros médias. Ce sera tous les gros médias américains, internationaux qui seront là.
Par exemple, j'ai entendu dire que, par exemple, chez BFM Télé, il y avait minimum deux journalistes internationaux politiques qui allaient être détachés pour parler de l'événement sur BFM Télé.
Dana White, il a fait une grosse tournée médiatique là, sur des médias mainstream, des médias importants. Je trouve qu'il a été plutôt bien médiatraîné. Cette fois-ci, ses éléments de langage, même s'il les a repris tous les mêmes, ils étaient un petit peu mieux ficelés. Donc j'imagine qu'il sera prêt pour la conférence de presse, parce qu'il va se faire bombarder de questions qui vont être un peu embarrassantes pour lui, je pense.
Alors après, tu dis que ce ne sera pas une conférence de presse classique. Généralement, c'est vrai qu'on le voit, les questions, c'est des fans qui sont là, qui encensent un petit peu les gars, etc. Est-ce que finalement, les questions ici seront prévues à l'avance? Ils vont peut-être, réunir des journalistes en leur disant « Toi, tu as une question, toi, tu as une question, toi, tu as une question, c'est dans tel ordre, et vous pourrez les poser. » Par contre, pas à l'accès à tout le monde, parce que sinon, il pourrait y avoir des pièges.
Ouais, il y aura des pièges. Je ne sais pas si Trump sera là ou son vice-président sera là, je ne sais pas trop, parce que c'est une conférence de presse, encore une fois, particulière sur un événement assez exceptionnel. Parce que si Trump vient, ça va partir sur tout ce qui se passe en Irak et au Liban et compagnie. Donc je pense qu'ils vont essayer de ficeler le truc au maximum, mais ils pourront pas empêcher certains médias de venir poser des questions, encore une fois, qui peuvent être embarrassantes pour Dana White, et cette fois-ci, il pourra pas répondre de shut the fuck up, je sais pas quoi.
Oui, parce que s'ils disent à Josh O'Keefe, par exemple, calme-toi un petit peu, lui aussi, il va falloir qu'il fasse un petit peu le dos rond sur certains trucs pour pouvoir répondre aux impératifs qu'exige un événement comme celui-ci. Dana White, d'ailleurs, qui sera donc bien sûr présent. Donald Trump, on ne sait pas encore. Mais lui, il a un planning sportif assez chargé, là, parce qu'il s'est dit qu'il sera à New York pour au moins l'un des deux matchs qui vont se passer à New York pour les finales NBA. Il s'est dit, évidemment, qu'il y a toute la Coupe du Monde qui arrive aussi de football, donc il va être très près. Donc là, sur les 10 jours qui arrivent, Donald Trump, il a un très, très gros planning sportif.
On sait que depuis toujours, le sport fait partie très intégrante de l'agenda politique des dirigeants et qu'ils se servent du sport pour essayer de regagner de la popularité. En ce moment, ça va pas fort du tout, sa cote de popularité. Donc il va essayer de faire le plus possible tous ces trucs-là, il va bien les faire. Et au passage, mais même si ça a un peu rien à voir, mais comme tu as cité les Knicks, j'en profite pour franchement passer un grand bonjour à tous les fans des Knicks qui ont souffert. J'en connais qui souffrent depuis
pendant des années. Ouais, c'est vrai.
Vous êtes plus très loin. Je pense à mon grand frère qui est fan du PSG, des Knicks, et qui est sénégalais. Lui, il est dans une année là. Je t'explique. Il touche plus le sol.
Tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, pour les Knicks là, en ce moment, je pense pour les fans français des Knicks, ça doit pas être facile, parce que dès qu'on dit ça à quelqu'un, on dit ah ouais, mais t'es pas pour les Spurs. Il y a Wemby qui est dans l'équipe. Donc je pense qu'en plus, ils sont vus un peu comme les dissidents qui ne soutiennent pas les.
Il y en a qui sont fans des Knicks depuis très longtemps. Moi, je peux pas dire que je suis fan des Knicks. J'y ai vécu, donc j'aimais bien. Même si c'était plus l'Orlando Magic, moi, dont j'étais fan. Un petit big up quand même.
Même chez nous, il y a Pierre-Henri Cachera, qui est JRI chez RMC Sport, et qui est venu avec le maillot des Knicks l'autre jour, et que je sentais un peu fébrile, parce que c'est un fan de la première heure. Et forcément, ça le met dans un état de fébrilité qui est assez constant jusqu'à la fin des finales. Surtout que j'ai vu quand même pas mal de mecs là-dessus qui pronostiquent quand même. Franchement, je vais pas faire mon prono parce que je suis pas assez connaisseur en basket, mais qui pronostique un 4-2 maintenant pour les Spurs. Donc,
Ouais.
On est à 2-0 là, alors on enregistre ce podcast, on est à 2-0 pour les Knicks. Donc voilà, c'est assez osé. Mais en tout cas, il y en a certains qui partent sur ce pronostic là. Est-ce que Baba, pour toi, quand même, cet événement, il peut avoir des vertus d'ouverture du MMA à un autre public?
Bah oui. De toute façon, tu vas avoir énormément d'Américains qui vont le regarder, qui ne regardaient pas habituellement. Dans le monde entier, j'imagine aussi qu'il y a des gens qui vont s'y intéresser un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de médias qui vont en faire la couverture. Donc oui, ça va ouvrir un petit peu le sport à un public plus large. Maintenant, je suis plutôt sceptique sur le fait que ça vienne pérenniser tout un nouveau groupe de fans. Voilà, je pense qu'ils le voient un petit peu comme un freak show. Oh, c'est cool, on va regarder un petit peu ce que c'est. Et puis après, on va passer à autre chose, quoi.
On parle de 60 millions de dollars à peu près pour l'organisation.
Ouais.
C'était, à titre de comparaison, la sphère, c'était 3 fois moins.
Ouais.
On parle de 20 millions de dollars pour la sphère, qui déjà était un show phénoménal et qui était un show surtout à déficit pour l'UFC parce que ça coûte plus que ça ne rapporte. Là, ce sera encore plus le cas parce que la billetterie sera quasiment nulle pour cet événement, même s'il y a certaines places très très chères qui se vendent. Mais la plupart, c'est des invitations.
Juste la pesée, je crois que c'est 1 million.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de prix qui circulent, mais de toute façon la billetterie sera très très faible, hein, parce qu'on parle de 5000 personnes
dans le public, des militaires et tout, donc
dont 1500 ou 2000 militaires, et puis à côté, bah forcément, il y aura tout le gratin de Washington, je l'imagine, qui sera là, tout le gratin de l'UFC aussi qui sera là, sauf Thomas Spinal d'ailleurs qui n'est pas invité.
C'est très compliqué en ce moment, on en reparlera peut-être quand ça retombe un peu, mais c'est chaud.
Il y a des échanges entre Eddie Hearn, il y a Dana White qui était en Europe d'ailleurs pour un Zuffa Boxing,
il était là-bas,
il a répondu à ça en disant bon, après ça, il a dit, mais attendez, si je demande à Eddie Hearn de libérer un de ses boxeurs, est-ce qu'il va le faire? Donc pourquoi est-ce que je libérerais moi Thomas Spinal? Donc
on sait tous que c'est la pire manière d'obtenir la libération d'un contrat à l'UFC, c'est la pire, tu peux pas faire pire que ça. Ça va rentrer dans une bataille d'ego, ce qui est déjà le cas depuis quelques mois maintenant, donc Thomas Spinal, il est un peu dans la merde, hein.
Ouais, il est un peu dans la merde, et ça met aussi un peu au niveau de l'image un peu dans la merde de l'UFC, parce que il y a une ceinture intérimaire des poids lourds qui se joue, ne pas avoir le champion disputé qui est là au bord de la cage, généralement il y a toujours un truc où le gars est là, enfin il y a des exceptions, mais là ça aurait été bien qu'il soit là.
Ça va même plus loin que ça. Depuis la victoire de Francis Ngannou sur Cyril Gane, je suis désolé, mais la catégorie des poids lourds, c'est n'importe quoi, c'est des ceintures intérim, puis des élévations au statut de champion par mail, puis malheureusement un combat pour le titre qui se termine comme il se termine, une autre ceinture intérim, autre combattant, un autre champion poids lourd qui veut plus combattre. Enfin, c'est, t'imagines si t'as un autre champion poids lourd qui part en étant champion, en n'ayant pas perdu sa ceinture dans la cage, deuxième d'affilée.
Non, mais là, il faut donc espérer que Cyril Gane l'emporte. Et c'est vrai, pour le bien de la catégorie, qu'il y ait un champion qui fasse 2-3 défenses assez légitimes. Il y a John Jones aussi qui l'a bloqué au milieu de tout ça pendant 2-3 ans. Ouais, écoute, c'est vrai que la caté prend un peu cher depuis quelques temps.
On y reviendra, mais c'est très envisageable maintenant pour moi, en tout cas, que si le vainqueur entre Pereira et Gane soit élevé au statut de full champion quelque part dans l'année. Hein. Moi, j'y crois, en tout cas.
C'est ce que je pense aussi. Antoine et Taylor, je crois qu'il y en a un des deux, je sais plus lequel, qui va aussi sur ce scénario, mais qui dit que le champion qui va être sacré intérimaire sur cet événement du 14 juin deviendra champion undisputed dans l'année. Et c'est vrai que vu les rapports entre Aspinall et Dana White, c'est fort probable. Baba, ça va être le troisième UFC organisé seulement à Washington. Le dernier, c'était en 2019, Overeem contre Rozenstruik. Tu sais, c'était quand Rozenstruik avait complètement ouvert la lèvre d'Alistair Overeem. Il a été sectionné en deux, un peu comme Robbie Lawler après le combat contre McDonald.
Horrible.
Les images étaient horribles. En toute fin de combat, en plus, je crois.
Ouais, c'est toute la fin.
Il décroche. Ça me fait penser aussi au KO de Derek Lewis sur Volkov à l'époque, qui était à la toute fin alors qu'il était dominé. Donc c'était il y a 7 ans, dernier événement organisé à Washington. DC. Et chose que j'ai précisé dans l'émission La Carte avec Antoine et Taylor aussi, j'ai fouillé un petit peu UFC Freedom 250. Alors, il n'est pas considéré comme un numéroté, mais ça rappelle un petit peu les UFC old school qui avaient des noms genre
Desert Storm.
Battle. Je sais pas comment il y avait.
C'était trop bien. Mais moi, je suis fan de ça.
Ouais, c'était sympa. Oui. Au tout début, c'était ça. Hein. Dès l'UFC 1, il y avait des noms qui étaient donnés. Et c'était d'ailleurs plus les noms finalement presque qui étaient retenus plutôt que les numéros.
Ouais.
Et en fouillant un petit peu, je me suis plongé dans cette liste qui est répertoriée sur une page Wikipédia de tous les UFC de l'histoire, et le dernier que j'ai trouvé numéroté où il y avait un nom, c'était l'UFC 125 Resolution. C'était entre Frankie Edgar et Gray Maynard le 1er janvier. Déjà, il y en avait un le 1er janvier.
Ouais, c'est vrai, c'était le 1er janvier.
2011.
Ouais, on l'a fait en Legends avec Thomas Desson il y a quelques semaines.
Ouais, effectivement, c'est ça, exactement. Et donc, voilà, c'était la dernière fois qu'il y avait des ceintures sur un événement qui avait un nom. Si j'ai bien fouillé, peut-être que je suis passé à travers un ou deux, mais je crois pas. C'était l'UFC 125 Resolution. Donc, il y a un petit côté old school qui sent bon quand même.
Ouais. Bon, après, le nom me fait rigoler, hein, je vais pas te mentir. On dirait un épisode de Magnum ou je sais pas, tu vois, mais c'est Freedom de
Et puis en réalité, ils auraient dû l'appeler Donald Trump Celebration, un truc comme ça. Hein, parce
allez,
que c'est l'anniversaire, ils le font un dimanche.
Ouais,
ils le font un dimanche.
On aurait dû dire la vérité. Hein. Bon, écoute.
C'est voilà. Et du coup, j'ai appris en préparant tout ça aussi que Donald Trump était né le jour du Flag Day. Donc le 14 juin, c'est aussi le jour du Flag Day. C'est la date où le drapeau américain a été validé. En gros, et qu'il a été j'ai plus le terme qui
un
vient
destin,
mais bon, en gros voilà dès sa naissance Donald Trump il avait un destin international et pour faire briller son pays à l'international ce qu'il est en train de faire aux yeux de certains et un peu moins aux yeux d'autres. Allez, on va passer au sportif. Sur le contexte, tout a été dit pour toi, Baba. Il y a d'autres trucs, si simplement le temps
la
météo dont on n'a pas parlé parce que c'est un très très gros sujet en ce moment. On parle de risque d'orage, on parle de risque de pluie, et Dana White a précisé que la seule circonstance qui pourrait faire annuler l'événement serait la foudre. Voilà, il a dit que c'était la seule circonstance. S'il y a de la pluie, s'il y a de l'orage, s'il y a des choses qui sont moindres par rapport à la foudre, l'événement aura lieu. Les moustiques, l'humidité, etc., ça, ils vont gérer.
La pluie, tout ça.
La pluie, vraisemblablement, ça ne gênera pas l'événement. En tout cas, ça l'empêchera pas de se dérouler.
Bah écoute, on verra bien. Je sais pas en quoi la bâche sera faite, mais moi je peux t'assurer que s'il pleut, ça va gêner. Ouais.
Ça va gêner. Et j'ai aussi interrogé Taylor là-dessus sur l'humidité parce que il avait combattu au Sénégal pour l'ARES
1
à l'époque, et donc forcément, lui avait pu combattre, mais la suite de l'événement avait été annulée parce que la cage glissait trop.
C'est impraticable.
Donc vu l'humidité qui est annoncée, on aura aussi Flora Moussi qui pourra nous rétribuer un petit peu tout ce qui se passe là-bas et même son ressenti par rapport à la chaleur.
Il faudra que Flora monte dans la cage pieds nus et qu'elle nous dise son ressenti réel.
Ouais. Et voilà. On voit si elle glisse.
On va lui envoyer un message après.
Alors, je sais pas si elle aura la possibilité d'accéder jusqu'à la cage. Parce que déjà, en temps normal, même à une T-Mobile Arena, c'est compliqué.
Ouais,
alors, dans les jardins de la Maison Blanche, si elle y arrive, là, c'est une prime.
Ouais, c'est clair. Il faut savoir. En coulisses, sachez qu'on n'a pas tous les mêmes accréditations quand on fait un UFC.
Ouais.
Nous, par exemple, qui sommes en plateau, on n'a pas accès au sol. C'est que les commentateurs ou les CM. Moi, j'ai pas le droit d'aller au niveau de la cage.
Et puis, ça rigole vraiment pas. On le dit souvent ici, l'UFC, c'est vraiment une organisation par rapport à tout ce qu'on a vu. Même au PFL, c'est complètement différent.
Ah non,
on a des badges où il y a des puces intégrées à l'intérieur, et quand tu passes des portiques, ça scanne le badge, il y a ta tête qui apparaît en gros plan sur un écran, et s'il y a du rouge qui est autour de ta tête, c'est pas bon.
Ah, c'est
tu fais demi-tour,
mais
t'as aucune chance de passer. Hein.
Pour vous schématiser le truc, pour ceux qui sont venus à Bercy, le plateau, donc je pense que vous savez à peu près où il est un petit peu en hauteur dans les gradins, mais en fait, je peux pas aller aux toilettes, moi, en bas. Mon badge me l'interdit, il faut que je négocie avec le vigile tout le temps, dire tu m'as vu, je suis en plateau, laisse-moi y aller vite fait.
T'avais aussi un petit désagrément à Abu Dhabi.
Pour aller.
T'avais dû courir entre le plateau, les toilettes,
les coulisses.
La conférence de presse, les coulisses. Enfin,
j'ai fait un bon sprint avec Yassine Zawini pour pouvoir revenir en plateau.
Ouais, exactement. Bon, voilà, les coulisses de l'UFC en tout cas, et ça rigole pas. Donc là, on imagine que, vu le contexte de l'événement à la Maison Blanche, ce sera encore renforcé du côté de Washington.
Ouais.
Et Flora Moussi sera là pour nous parler de tout ça. Il y a aussi deux JRI qui partent, donc deux journalistes reporters d'images qui partent, et deux CM qui partent.
Et les deux CM stars, voilà, Yassine Zawini, Hugo Pérez.
Exactement, il y a cinq personnes qui seront là-bas. Et évidemment, cette semaine, il y a aussi l'Hexagone de Lyon, où on sera ensemble, Baba, vendredi soir, avec aussi beaucoup de contenu. Et le plus gros événement, en tout cas en termes de billetterie, 12 000 personnes annoncées, ce sera le plus gros événement pour une organisation française de MMA depuis la légalisation, donc à suivre vendredi soir du côté de Lyon, et bien sûr sur AMC Sport. Les combats maintenant, Baba, on va d'abord réaborder Pereira contre Gann, et sur le contexte et sur le côté technique, avec Gann qui a quand même combattu, on le dit à chaque fois, qui a combattu Derrick Lewis, qui a combattu John Jones, qui a combattu Francis Ngannou, qui a combattu Junior Dos Santos et qui a combattu Thomas Pinal, et qui maintenant affronte Alex Pereira. La trajectoire est folle, tout ne s'est pas toujours bien passé, évidemment on connaît ce qui s'est passé à la fois contre Ngannou, à la fois contre Jones, et puis ce high poke contre Thomas Pinal. Malgré tout, quoi qu'il arrive, quand on regardera les noms qu'a affronté Cyril Gann, on se dira Il a fait vraiment quelque chose de très grand dans le MMA.
C'est ça, à la fin, est-ce que tu voudras parler que des défaites ou est-ce que tu voudras parler du CV incroyable qu'il a pu se tailler ? C'est simple, lui pourra se dire, et les gens pourront se dire, il a affronté tous les gars possibles qui étaient là, qui étaient disponibles et qui étaient au plus haut niveau, bah, il les aura affrontés en fin de compte. Et je crois que c'est quelque chose qui va vraiment compter dans sa carrière à la fin, pour sa legacy dont tout le monde parle tant. J'ai l'impression quand on parle de legacy, on parle que de titres ou que de victoires. Il faut aussi parler du résumé, du CV. Et là, le CV de Cyril, il n'y a pas beaucoup de poids lourds dans l'histoire du MMA qui peuvent se targuer d'avoir un CV aussi fourni, d'avoir affronté autant de noms et d'avoir affronté tous les meilleurs qui sont disponibles. Il manque peut-être Stipe Miocic qui n'était plus à son prime quand Cyril est arrivé au top. Mais en dehors de ça, il a affronté tout le monde. Donc, tu peux que respecter la carrière, en fait. Je vois pas comment tu vas... Ouais, après, les défaites, c'est critiquable, si tu veux, la manière, etc. Pourquoi pas ? Mais quand tu regardes ce qu'il a pu faire, alors que, encore une fois, c'est un mec qui a commencé le combat dans sa vingtaine, c'est incroyable. Il n'y a pas une carrière qui a son pareil. Bon, ouais.
Et puis, c'est vrai que même dans sa montée en puissance, les noms qu'il affronte, je l'ai dit tout à l'heure, Junior Dos Santos, qui n'était plus le Junior Dos Santos Prime, mais quand même, c'était il y a 6-7 ans. Donc, c'était quand même un Junior Dos Santos qui restait compétitif par rapport à ce qu'il fait maintenant. Il a affronté un Rosenstruck, hein, on l'a dit. Ouais. Rosenstruck qui avait battu Overeem, par exemple. Donc, c'était une montée en puissance très crédible. Et moi, là où j'apprécie ce qu'il est en train de faire aussi, c'est que même s'il y a des défaites qui viennent s'entrecaler, entre-temps, il prend des victoires. Parce que parfois, tu vois, on voit des fins de carrière de grands combattants qui affrontent des grands noms, mais c'est du rouge sur rouge.
On va parler là, d'un justement sur cette carte, mais
oui, effectivement. Ouais. Et là, chez Cyril Gane, même s'il perd contre les gros, derrière, il revient, il prend du vert. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce parcours.
Bien sûr, de rebondir. Et Cyril, il a établi son niveau dans la catégorie en disant, c'est le plus haut niveau. Les gars qui sont en dessous de ce niveau-là ne peuvent pas battre Cyril. Il l'a montré. À chaque fois qu'il y en a un qui a essayé, il n'a pas pu. Et à chaque fois qu'il a dû rebondir, il a rebondi en prenant un mec du top 10. Et il l'a massacré. Donc, ça veut dire qu'il est constamment, depuis qu'il est arrivé à ce niveau-là, il est constamment dans le top 3. Il n'en est pas sorti, il n'en sortira pas, en fait, à part quand il prendra sa retraite. Et c'est ce niveau-là. Et à ce niveau-là, ça se joue sur des détails. Et ces défaites, elles se jouent sur ces détails. La défaite contre Francis Ngannou, elle se joue à un round près. La défaite contre Jones, c'est une erreur de calcul de sa part sur du striking. Et tu continues. Et le combat contre Aspinall,
manque de chance avec ce high poke. Tu le situes où ce combat dans l'histoire du coup du MMA français ? Est-ce que tu attends le résultat pour savoir si on le place devant Jones et Ngannou ? Est-ce que si il y a aussi des fêtes, ce sera moins important, moins impactant d'avoir affronté Jones par exemple ? Où est-ce que tu le situes ? Maison Blanche plus Alex Pereira qui est un gars qui restera dans l'histoire de l'UFC et du MMA.
Si c'était pour la ceinture normale, ça passait devant les deux autres pour moi, tu vois. Le truc, c'est que contre Jones et contre Francis, c'était pour la ceinture normale, la vraie ceinture, entre guillemets. Et rien ne remplace, à mon sens, un combat pour le titre, pour le vrai titre. Donc c'est au-dessus, mais légèrement au-dessus, parce que l'événement rattrape pour le reste. L'événement rattrape le fait que c'est pas la vraie ceinture. C'est une ceinture intérim. Moi, je considère le mec qui va gagner comme le champion. Et Aspinall, il va devoir revenir et affronter le gars qui sera vu par la plupart des observateurs comme le champion. Et l'importance de l'event fait que, encore une fois, et pareil, ça dit beaucoup de la carrière de Cyril. Il est actuellement propriétaire des trois plus gros combats de l'histoire du MMA français. C'est lui.
Il est clairement. Juste derrière, il y a Manon Fiorro contre Shevchenko.
Manon Fiorro contre Shevchenko, t'as Nassourdine Imavov contre Israel Adesanya. Après, tu vas voir les autres, on va dire, entre guillemets, qui vont arriver. Manon contre Rose Namajunas, notamment, mais en termes d'adversité, etc., tu vois pas beaucoup plus loin que ça.
L'adversité, justement, elle s'appelle Alex Pereira en face. Il y a une stat qui est intéressante, c'est au niveau du pourcentage de coups réussis en carrière. Pour tous les combattants, toutes catégories confondues, qui ont dépassé les 1000 coups tentés en carrière, les deux plus précis de l'histoire avoir dépassé les 1000 coups, numéro 1 Alex Pereira, numéro 2 Cyril Gane. Toutes catégories confondues. On est à 60, je vais dire très exactement, 62,10% pour Poatan, 61,65% pour Gane. Ouais. Ça en dit long sur le duel de striker qu'on va avoir sur ce fight ?
Ça en dit long déjà sur le duel de striker et la qualité du striking des deux combattants. Et pourquoi ça en dit long sur cette qualité-là ? Parce que c'est deux strikers qui sont arrivés dans leur prime. En MMA, à l'UFC. Et c'est ce qu'on dit toujours. Il y a eu des strikers qui ont fait la transition après 100 combats en kick, après 15 ans en kick, et les mecs, ils n'avaient plus rien dans la chaussette, donc ils sont arrivés, ça a été trop compliqué. Là, on a deux combattants qui sont arrivés dans leur prime. en MMA. Et voilà ce que ça a donné. Comme Adesanya, il est arrivé dans son prime aussi. Et voilà ce que ça a donné. Les strikers de très haut niveau, ouais, les mecs, c'est le très haut niveau. Et ça les met automatiquement au-dessus de la majorité des combattants. S'ils en plus, ils arrivent à gérer la lutte de leurs adversaires, ça devient compliqué. Et 62% de précision de coups sur plus de 1000 coups, c'est énorme. C'est énorme. C'est très difficile d'être aussi précis face à une cible mouvante. C'est pas un sac en face. C'est des mecs qui défendent les coups, qui esquivent, tu vois.
Et en plus, à mettre en perspective pour Poatan, parce qu'il y a une partie de ces combats-là qui sont en moins de 84
ouais,
aussi.
En plus.
Donc ça veut dire que t'as des mecs encore plus mobiles, encore plus mouvants que chez les poids lourds, là où il va arriver maintenant.
Et d'excellents strikers. Et deux combats contre Adesanya dans l'eau. Enfin, il y a des combattants solides, techniquement très forts. Donc ouais,
et en plus, pour un Poatan qui ne fait que striker, qui ne lutte pas du tout, c'est-à-dire que 100% de ce qu'il fait, c'est du striking quasiment.
Explosé.
Et du coup, 62% ça touche.
Explosé complètement.
Et c'est là où on comprend à travers cette stat aussi la difficulté que ça doit être d'affronter un Alex Pereira. Et puis ça veut dire aussi qu'il a essayé d'envoyer plus de 1000 coups. Ouais. C'est-à-dire que l'activité, elle est énorme.
Non, il bosse.
L'activité est énorme.
Il y a du volume. Le problème, c'est que les 62% de fois où Pereira va te toucher, c'est pas les 62% d'un autre mec. Mm. 62% des fois, il te touche. C'est potentiellement une fois, il te met KO en fait.
Ouais.
C'est quasiment que des coups puissants là-dedans.
J'ai monté des images là pour l'émission de dimanche. Les ralentis du crochet du gauche sont vraiment fous, sont vraiment exceptionnels.
C'est dingue, c'est décortiqué. Et d'ailleurs, si c'est pas fait, honte à vous, mais allez regarder le film de Romain Pougeot, Unique. Parce que il y a un passage où le crochet du gauche est décortiqué par un spécialiste et je trouve ça super super cool. Et puis il y a l'apport de Crocop qui explique tout ça, qui explique la puissance de frappe, le punch, comment ça fonctionne. Franchement, ce film, c'est une pépite.
Ouais, crochet du gauche d'Alex Pereira qui, on l'espère, va pas faire mouche à ce point-là contre Cyril Gane dans la nuit de dimanche à lundi. Pereira, c'est 6 finishes dans des title shots déjà. Le record absolu, c'est Anderson Silva avec 9 finishes dans des title shots. Et ils sont 11 à avoir été champion dans deux catégories. Là, ça y est, s'il remporte cette ceinture, il sera le seul, Alex Pereira, à avoir remporté des ceintures dans trois catégories. À quel point ça marquera l'histoire? Pareil, moi, je me demande là-dessus, tu vois, comment est-ce que dans 15 ans, on se souviendra d'Alex Pereira? Est-ce qu'on s'en souviendra pour son crochet du gauche? Est-ce qu'on s'en souviendra pour sa rivalité avec Adesanya? Est-ce que là, s'il l'emporte, on se dira, c'est le seul à l'avoir fait parce que peut-être que personne ne l'aura fait d'ici là? Comment on se souviendra de lui?
On se souviendra de lui comme une légende de l'UFC, une des plus grandes légendes de l'UFC. S'il arrive à faire ça, franchement, ça marque ton temps, tu marques ton époque, tu marques, t'es le premier à le faire dans 3KT. En anglaise, il y a une grosse importante en termes de classement des combattants, de légende, etc. Sur le fait justement d'être champion dans plusieurs catégories de poids. On a, toi et moi, analysé la victoire de Crawford et on a dit maintenant qu'il est champion dans 3KT, unifié dans 3KT, ça le met tout en haut des classements. Bah, ce sera la même mécanique pour Pereira. Là, tu peux que respecter. Qu'est-ce que 3... Même si c'est les KT les plus hautes, bah, faut le faire. Et les autres l'ont pas fait.
Et si dans les années qui viennent, Islam devient champion en moins de 84, Topuria devient champion en moins de 77 et que du coup eux aussi ont réussi à être champions dans trois catégories. Est-ce que ça dévaluera la performance de Poatan s'il arrive à prendre cette troisième ceinture?
Ça la dévaluera pas, mais ils seront au-dessus de lui parce que c'est plus dur.
Ouais.
C'est plus dur de faire 70, 77, 84.
Mais donc ça pourra.
65, 70, 77, c'est beaucoup plus dur.
Ça pourra atténuer un peu la légende Poatan.
Ouais, peut-être pas. C'est pas que ça va l'atténuer. Ce sera dommage pour lui. Ce sera dommage pour lui que d'autres gars ont réussi à le faire dans des KT plus difficiles, avec plus de densité. Mais il sera en très bonne compagnie, on va dire.
Parce que je me dis aussi quand même que, en réfléchissant à ça, en t'écoutant, c'est quand on repense au champ, le premier à l'avoir fait, c'est Conor McGregor, et ça reste encore dans l'histoire. Donc si le premier à le faire, c'est Poatan, ça restera aussi dans l'histoire.
Ça reste dedans. Une fois que tu l'as fait, tu restes
quand,
dans l'histoire. Et derrière, voilà, on ne va pas t'effacer, on va pas te mettre un petit peu en retrait parce que d'autres l'ont fait. Moi, je respecte tous les champions qui sont dans 2KT. Maintenant, c'est mieux quand tu défends, évidemment. Mmh. Quand tu défends au moins une, ce sera toujours mon problème avec Conor. Mais en dehors de ça... c'est très fort de le faire, c'est très fort, et certaines catégories c'est plus dur que d'autres, mais là, trois fois champion, il va ouvrir une nouvelle perspective, une nouvelle ère en fait de combattant à l'UFC qui pourrait peut-être le faire, mais la tâche sera beaucoup plus ardue pour un Ilia Topuria ou un Islam Makhachev. Beaucoup plus dur,
ouais.
Parce que ça veut dire que Makhachev aura dû prendre Poatan pour le faire, par exemple.
Ouais.
Je veux bien, hein, c'est un excellent lutteur, mais c'est dur.
Tu penses que là ça aurait été un match-up un peu trop dur
Ah, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est que tu peux l'amener au sol et tout. Hein, ça, mais si, vu les mecs qu'il a mis KO, Pereira, je ne suis pas sûr que Islam puisse survivre un bon jab bien appuyé, tu vois. Juste ça, déjà, c'est compliqué.
Ouais, bon, je pense que ça, c'est un combat qui, malheureusement, vu le poids pris maintenant par Poirier, ne se fera jamais. Mais bon, c'est vrai que c'est un match-up un peu. Un dream match-up qui aurait été sympa à voir, ce Islam contre Poirier. On va enchaîner, Baba, sur le technique rapidement, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps ici sur le contexte global de l'événement et sur ce Poirier contre Cyril Gane. Simplement, est-ce que tu t'attends, on en a déjà parlé, on va réfère encore une fois à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière avec Aurélien Duhart pour le technique de ce Poatan contre Gane, est-ce que quand même le striking va être privilégié par l'un et par l'autre? En revanche, si le striking commence à se compliquer un peu pour Cyril Gane, c'est lui qui aura la main pour pouvoir aller vers de la lutte, vers du grappling?
Ouais, c'est lui qui aura la main, c'est lui le combattant le plus complet des deux, c'est lui qui maîtrise le mieux cette partie du combat. Clairement, il a bossé, ça fait 2 ans maintenant qu'il bosse la lutte à fond, même s'il le fait depuis un certain temps, mais à l'époque où Fernand a dit qu'il boufferait la lutte après le combat contre Francis, mais on sait que ça fait vraiment 2 ans là qu'il est entouré, notamment à Dubaï, dans ses camps de préparation, par des lutteurs, etc. Maintenant, je crois pas que ce sera le game plan principal de Cyril, simplement, il va, comme tu l'as dit, il y a 2 solutions, ça se passe mal debout, bah, il aura cette capacité-là, lui, à lutter, amener au sol, essayer de travailler sur le grappling, ou il peut s'en servir aussi comme élément perturbateur. Voilà. Premier round, tu vas commencer à striker un peu, hop, un takedown pour faire chier, pour faire réfléchir Alex, et quand tu te relèves, c'est plus le même combat. Là, Alex, il est mis sur les talons, il est un peu plus inquiet de la lutte, et ça permet à Cyril de pouvoir ouvrir. Et on sait tous que la clé principale pour gagner ce combat, pour Cyril, c'est de faire reculer Alex. Il faut le mettre sur la marche arrière. Dès que tu le fais reculer, Alex, c'est plus compliqué pour lui.
Et si dès les toutes premières secondes du combat, il allait coller Alex pour lui montrer, est-ce que ce serait, moi je suis en train d'y réfléchir aussi, mais est-ce que ce serait pas un bon game plan aussi de lui montrer tout de suite, regarde, si jamais j'ai envie de te faire chier en lutte, je vais pouvoir te faire chier en lutte, en grappling je vais pouvoir faire tout ce que je veux, et si j'ai envie de me décoller, tu vas me laisser me décoller parce que t'as pas envie de combattre comme ça, mais au moins je t'aurais montré que je peux t'embêter dans ce domaine là est-ce que c'est pas une bonne idée d'essayer de faire ça?
Bien
tout
sûr.
En se protégeant évidemment d'en prendre une au passage en rentrant, mais tu vois, changer de niveau tout de suite et venir coller,
venir coller, clincher, travailler dans le clinch, donc avec dirty boxing, avec les coups de genoux, c'est une très bonne idée. Bien sûr, il y a un danger, puisqu'il est à courte distance, Pereira est plus que dangereux. Crochet, percut, on sait que ça fait tomber. Cyril aussi est dangereux, et Alex aussi est tombé dans cette distance-là. Il a été vulnérable dans cette distance, notamment contre Adesanya. Donc, ce serait une bonne idée. Et puis, encore une fois, ça ferait chier. Ça rentrerait dans la tête d'Alex dès les premières secondes en disant putain, ok, donc là, ça va être un combat. Il va me coller, il va me clincher.
En plus de ça, vu son passif Muay Thai, au clinch, il a certainement l'avantage quand même au pure clinch.
Ah oui.
À mi-distance, Poatan est très très bon, mais s'ils sont vraiment collés, sur les ruptures de contact, sur les coups de coude,
sur la puissance,
envoyer en rupture de contact, il a l'avantage.
Ah oui, non, c'est pour Cyril. À cette distance-là, là, dans le clinch, c'est pour Cyril. Ouais. Il est très bon dans ce domaine-là, il a beaucoup travaillé, il le travaille encore. Et Alex, c'est pas son point fort, le clinch. C'est un combattant de kickboxing, il a pas beaucoup clinché. Très peu même.
Ouais, il aura pas. Alors la taille est à peu près équivalente, je crois qu'il y a 3 cm de différence, mais en faveur de Poatan, hein, si je dis pas de bêtises.
Il a l'air un peu plus grand.
Je crois qu'il est un tout petit peu plus grand, à vérifier, mais en tout cas, la taille sera pas forcément un avantage marquant pour l'un ni pour l'autre, parce que de temps en temps, dans ce genre de situation, au clinch aussi, pour pouvoir mettre des coups de genoux, au ventre, etc., ça peut privilégier, pour pouvoir descendre la tête sur un genou ou autre, mais là, la taille sera à peu près équivalente, donc ce sera pas forcément une donnée à prendre en compte, et donc voilà, bah, on l'a dit, hein, je sais pas si tu veux rajouter des choses techniquement sur ce combat.
Non, encore une fois, t'as raison, allez voir l'épisode qu'on a fait avec Aurélien Duhart, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait, la plupart en tout cas.
Ouais, avec ce combat, donc sur le papier, entre deux garçons très talentueux et très expérimentés en pied-point, avec peut-être l'avantage de Cyril Gane s'il décidait d'aller coller et d'aller lutter avec le Brésilien sur ce combat. On passe à l'événement principal, Topuria contre Gaethje, ça aussi, ça fait quand même... ça fait quand même rêver, hein, ça, franchement. parce que, pareil, plus ça avance, plus je me dis, bon, Topuria, évidemment, il va le faire, mais plus ça avance, et je me dis, mais Gaethje, je sais pas, il va être...
Ça y est, là, t'arrives à avoir un petit Gaethje...
En fait, je pense que quand même, c'est un mec qui mentalise beaucoup les choses, et là, il va être vachement... happé par cet événement. Alors en fait, je pense que c'est qui tout doux pour Gaethje. Est-ce qu'il va avoir une pression qui va être un peu démesurée par rapport à ce que c'est habituellement, parce que l'Américain, les espoirs américains reposent un petit peu sur lui, sur ce combat.
C'est ça ma question pour toi, Charles.
Est-ce que ça va l'aider ou est-ce que ça va le défavoriser?
En vrai, quand il a eu la pression, Gaethje, est-ce qu'il a bien géré?
Non. Ses combats pour
à
la
chaque
ceinture,
fois, ça s'est mal passé.
Il est pas très bon. Ouais.
Sous pression, ça s'est toujours mal passé pour lui. Et c'est un peu mon problème avec lui, tu vois. Au-delà du fait que techniquement parlant, c'est un combat parfait pour Ilia Topuria. sous pression. Quand on se rappelle quand il a combattu chez lui, bah, contre Oliveira, c'était chez lui, hein, devant son public et tout. Ouais. Il a dit derrière, c'était trop de pression pour moi, j'ai pas pu gérer. Contre Holloway, même chose. Enfin. Lui, t'as besoin qu'il y ait zéro pression, qu'il arrive en territoire ennemi, qu'il n'y a personne qui le regarde, ouais, et là, il est content.
Là, il sait que c'est sa dernière chance. Bon, on le dit souvent pour beaucoup de mecs, hein, mais là, d'avoir cette ceinture qu'il n'a jamais réussi à avoir en plusieurs tentatives, je pense que c'est la dernière chance qu'il aura. Il n'en aura plus derrière. Et tu vois, je me dis, tu vois, un peu à l'image de ce que je me dis pour Conor McGregor au mois de juillet, je me dis, Conor McGregor, il va être là, il va être présent, il sera dans la cage. Il peut plus pull out un combat, même s'il l'a fait qu'une seule fois. Mais c'est-à-dire, ça fait 5 ans qu'on l'a pas vu. Si là il pull out, qu'il plante l'UFC sur une fight week, si lui il se remet encore 6 mois parce qu'il commence à vieillir un petit peu et le corps il va plus réagir pareil. Donc je pense que Conor McGregor sera là au même titre que je me dis. Je pense que mentalement, Gaethje va se dire c'est la dernière chance et peut-être que ça va le décharger d'un poids aussi.
Peut-être que ça va le galvaniser. Peut-être. Je... C'est juste que ouais, son historique personnel me laisse penser que c'est compliqué. Tu mettais Pimblett en face de lui, là. Je te dis, bon, ça va être dur, mais il va pouvoir le faire. En face de lui, il a le combattant actuellement le plus létal qu'on ait dans le MMA.
Alors actuellement, sauf que ça fait un an qu'on ne l'a pas vu.
Ça fait un an qu'on ne l'a pas vu, ouais, c'est vrai. Mais vu comment il travaille... Je suis pas inquiet pour cette année à l'écart. Ouais. Même, j'ai envie de te dire, vu comment il travaille, la qualité de son entraînement, c'est-à-dire la qualité des infrastructures, la qualité de son entourage et son approche de l'entraînement, je dirais même que c'est une mauvaise nouvelle pour Gaethje. Je dirais même qu'il a eu beaucoup trop de temps pour continuer à travailler encore. Enfin, on a vu les progrès astronomiques qu'il a fait en anglaise sur les 3-4 dernières années. Il travaille beaucoup ça encore, mais il y a certaines images qui sortent avec son frère quand on parle de stratégie, comment ils ont réussi à piéger Holloway. Il y a Volkanovski qui a tout un laïus sur regarder comment il m'a piégé Topuria. En fait, regardez ce qu'il a fait pour me mettre KO. C'est hyper intelligent parce qu'il a compris comment je faisais. Il a compris, mais il a su exploiter mes mauvaises tendances. On parle d'un combattant en face de lui ce week-end qui a beaucoup de mauvaises tendances. Après, c'est un combat, Gaethje frappe évidemment. Mais aucun combat n'est joué d'avance ou écrit d'avance. Mais la combinaison de l'un et l'autre, moi, Charles, elle me rend pas confiant du tout pour Gaethje. Ouais.
Le côté mental aussi de Topuria, je pense que c'est un mec très très fort mentalement, ouais. Topuria, qui l'a prouvé dans sa carrière. Il est encore invaincu, il commence à accumuler beaucoup de records et la pression, lui aussi, il l'a connu. Sur ses derniers fights, il l'a connu, la pression de monter de catégorie, la pression d'affronter les mecs qu'il a affrontés, et puis il reste quand même sur des KO,
et de se mettre
sur
dans des positions.
Holloway et Oliveira, faut juste se rendre compte de ce que c'est.
Le run, c'est un run de malade.
Est-ce que c'est le run de 3 victoires d'affilée, le plus beau de l'histoire de l'UFC pour toi?
Ah, je sais. Peut-être, pas. C'est un des plus beaux. C'est un des
je pense
plus
que sans, là, on va pas tous les avoir en tête, mais en gros, si on fait le truc, c'est top 3, quoi qu'il arrive.
Oui. Ah, mais non, mais là, c'est des combattants dans leur prime.
Et la manière.
Il les a mis en l'air dans leur prime et ils ont tous rebondi avec quelque chose d'intéressant quasiment derrière. Il manque Holloway qui s'est pris un Charles Oliveira qui, justement, a décidé d'arrêter de boxer. Une fois que c'est fait mettre KO contre Topuria, il a compris, en fait. Donc ouais, non. En fait, tu bats des mecs qui vont continuer à performer. Donc, le run est dingue. La progression est dingue. Moi, c'est un combattant qui me laisse... qui me fait kiffer, pour le dire de façon très triviale, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que dans la cage, ce qu'il fait, c'est un truc de malade. Mais l'approche, le mindset... sa manière de progresser, d'identifier les axes de progression et d'y aller, franchement, c'est un truc de dingue. C'est mon problème, en fait, pour Gaethje, si tu veux. Tu vois, je crois que j'ai n'importe quel autre mec en face, je me dis, il y a peut-être moyen de faire un truc. Pour rappel, je l'avais vainqueur, moi, contre Pimblett, Gaethje. Je le voyais pas perdre contre Pimblett, en fait. Et là, là, je me dis, franchement, à part venir armé, je vois pas.
Ah, tu vois pas les solutions. On a fait plusieurs références, il faut y aller armé sur cet événement-là.
Ouais. Ah, bah, c'est les événements des pétards, hein, c'est le 14 juillet. Mais non, vraiment, franchement, c'est un combat et respect à Gaethje, et ça veut dire qu'il a une chance de gagner, mais je lui donne une chance très maigre. C'est la vérité.
Deux questions que j'ai posées aussi à Antoine et Taylor. Est-ce que. Alors, la trajectoire n'est pas la même parce qu'il a beaucoup plus de combats UFC déjà réalisés, Topuria. Mais est-ce que le 29-0 de Khabib, il est à 17-0, hein, Topuria? Est-ce que quand même tu dis que c'est un objectif atteignable pour Topuria?
Je ne sais pas s'il combattra aussi longtemps que ça.
12 combats, c'est beaucoup encore.
12, c'est beaucoup. 12, c'est 6 ans, à peu près.
Ouais.
Sauf s'il décide de combattre un peu plus régulièrement.
Sans défaite dans ces catégories-là.
5-6 ans, sans perdre. Il a quoi, 27-28 ans maintenant?
Ouais.
Oh, c'est faisable, hein. C'est faisable, mais je sais pas. Le problème de Topuria, c'est qu'il est déjà bien riche, là.
Ah ouais, oui. Ah oui, oui. Bah, je pense que là, on sponsor, etc. Souviens-toi, dans les embedded, dans les countdown, ça fait un moment qu'on voyait sa maison déjà à Madrid, ouais. Magnifique. Donc déjà, ça montrait une certaine opulence financière.
Et là, ça ne
fait que monter crescendo, ouais, pour
et
lui.
Et puis son après-carrière, il est déjà reclenché, parce qu'il est propriétaire d'une organisation de MMA qui est en train de tout péter en Espagne actuellement. Ouais, j'ai du mal à l'envisager combattre jusqu'à 34-35 ans, peut-être. Ouais,
donc le 29-0, très dur, mais faut quand même encore une fois préciser qu'il a commencé les combats UFC, ouais, plus tôt, Topuria, donc la concurrence était plus féroce et plus tôt que pour Khabib.
Voilà, et puis s'il continue 3-4 ans et qu'il termine à, je sais pas moi, 23-0, ce sera pas le même 23-0 que le 29-0 de Khabib. Je suis désolé, sans manquer de respect à Khabib.
Oui, c'est vrai, ouais, mais t'as raison.
C'est une carrière légendaire, mais lui, waouh, ça veut dire que là, il va continuer à tabasser des mecs. Dans leur prime, qui vont devenir des légendes. Ouais, là, le résumé, ça va être dur à s'approcher.
Et mon autre question, est-ce qu'il apparaît déjà dans ton top 5 GOAT, Topuria? Et sinon,
c'est une bonne question, ça.
Est-ce que tu as une petite idée, un cap, par exemple, en te disant, bon, bah là, il bat Gaethje, il fait la Maison Blanche, derrière, il rebat deux mecs, ça y est, il est dans mon top 3 des GOAT, tu vois? Est-ce que tu as une petite idée de. Sous combien de temps tu pourrais le considérer dans, ton top 5 GOAT?
Dans peu de temps,
là, il n'y est pas encore.
Il est top 10, clair et net.
Ouais, déjà acté.
Ouais, il est top 10. Ouais. Gaethje, ça va pas changer grand-chose, mais ce sera quand même bien. Ce sera quand même une excellente victoire pour lui, clairement. Si derrière ça, tu fais de Tsarukyan et que tu le bats, ouais, là, t'es top 5. Et si derrière, tu vas faire Marachev, victoire ou défaite, tu gagnes des places. Dans mon livre à moi, tu gagnes des places.
Bah,
si tu vas le faire, pour moi, c'est un truc de ouf. Tu vois, j'ai du mal à le croire, entre guillemets, à ce combat-là. Mais s'il va le faire à 77... tu rentres dans les tarés. Pour moi, tu es dans les tarés et on doit respecter le fait qu'il aille faire ça.
Là, s'il fait le parcours que tu es en train de dire, c'est même pas. Là, ça discute pour numéro 1.
Ça discute numéro 1, oui.
Là, ça discute très fort numéro 1.
Il faut pas se retenir.
Et en plus, il a pas pour habitude de pas soigner la manière, Elia Topuria. Ouais. Donc, normalement,
s'il arrive à faire tout ça, comme tu le dis. Et puis ensuite, on fait cas que des victoires, malheureusement. Ce qui est dommage. S'il décide de devenir aussi grand que ça, d'aller chercher Marachev à 77. Non, respectons-le et donnez-lui la place qu'il mérite.
Techniquement, maintenant, sur ce combat, rapidement, Baba, quel combat tu vois entre Topuria et Gaethje? Gaethje, c'est la marche avant permanente, c'est des gros crochets qui sont envoyés de manière assez constante. Comment Topuria il va gérer, canaliser cette fougue que peut avoir Gaethje? Et on va certainement voir, j'imagine, un Topuria qui va, lui, essayer de prendre le combat à son compte.
Ouais, c'est ça, il va prendre le centre de la cage, il va... faire ses mouvements de tête habituels, mouvements de buste, essayer de trouver l'ouverture. Il a bien travaillé, donc ça veut dire qu'il a trouvé une ouverture chez Gaethje. Gaethje est dangereux à mi-distance, attention, contre des combattants plus petits que lui, il l'a montré, notamment contre Rafael Fiziev. Uppercut et tout, il est très dangereux. Maintenant, je pense que c'est travail aussi du côté Topuria, qui va mettre une pression constante, en fait. Il va chercher à faire reculer Gaethje. Gaethje, c'est la même maladie que Poatan. S'il recule, ça devient très très dur pour lui. Encore bien plus dur d'ailleurs que Poatan, qui sait quand même mettre les gars KO en reculant. Ce qui est beaucoup moins le cas de Gaethje. On a vu Khabib qui a épuisé Gaethje juste en avançant sur lui. Ouais. En lui mettant une pression monstrueuse, il l'a épuisé en fait. Il l'a forcé à déclencher comme il ne voulait pas. Mmh. Oliveira, pareil, dès qu'il a mis la marche avant, Gaethje, ça a été dur. Et là, on a le pressure fighter le mieux éduqué qu'on ait dans le MMA aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un combattant qui ne va pas juste te marcher dessus, c'est un combattant qui va te réduire la distance, qui va te bouffer l'oxygène petit à petit, centimètre par centimètre. Quand il gagne le centimètre, il ne le perd plus, il reste là. Il va défendre, il va esquiver, il va contre-attaquer, il va toucher, il va mettre beaucoup de feintes, il va fake la distance et d'un seul coup exploser. Il aura l'avantage de la vitesse, la puissance, peut-être qu'elle sera du côté de Gaethje, mais le punch, encore une fois, il est côté Ilia.
Ouais.
Et ça lui donne beaucoup d'avantages dans ce combat.
Et puis Ilia, justement, il est très fort pour trouver sa distance parce qu'il a une distance, voilà, ses distances de prédilection et surtout les combinaisons qu'il arrive à faire, ouais. Elles sont précises, elles tapent à la fois au corps et à la fois à la tête. Et on sait que Gaethje, il a pour habitude de bloquer les coups avec sa tête, hein, généralement. Ouais. Donc il sait encaisser, il sait aussi tomber, essayer de se remobiliser. Sauf que maintenant, si ça tombe, il a aussi un Topuria qui, au sol, va pouvoir montrer à nouveau qu'il est très très fort et qu'il est capable de replacer des soumissions comme il le faisait en début de carrière.
Absolument. Et le problème, il est inverse de l'autre côté. Gaethje, quand ses omoplates touchent le sol, il se fait soumettre pas longtemps après.
Ouais.
Ça paraît, hein, c'est sa carrière qui me le dit. Hein. Dès que ça arrive au sol, ça devient très dur pour lui.
Le scénario que tu vois, c'est-à-dire un Topuria debout qui arrive à sonner Gaethje. Gaethje sonné, qui du coup n'a plus trop d'autres solutions que de tomber, d'essayer de récupérer un peu au sol. Et un Topuria qui lui fonce dessus et qui essaie de le soumettre ou de le ground and pound.
Moi, je vois Arthur Pearl mettre le KO clean.
Clean de, debout.
Ouais.
Sans un coup en ground and pound.
Moi, je le vois mettre le KO. Pas un coup si, parce qu'il va tellement vite qu'il arrive toujours à
jouer du ground and pound.
Alors que les mecs sont inertes. Mais je le vois mettre KO clean, moi. Ouais. Ouais, je le vois vraiment, j'ai une vision là, de le voir à l'intérieur, là, d'enchaîner, qu'en face, qu'il y a une frappe qui touche en haut et qui lui éteint la lumière.
Et si Gaethje décide un petit peu de nous surprendre et de retrouver le bagage en lutte qu'il a un petit peu oublié dans sa carrière, non, t'y crois pas ?
J'y crois zéro.
Parce que tu crois pas qu'il va se dire, tiens, le striking de Topuria, il est trop rapide pour moi, sa boxe, elle est trop clean, donc si je vais coller un petit peu, je peux brouiller les pistes et essayer de déstabiliser un peu Topuria, c'est pas ça qui va...
Franchement, j'y crois pas.
On va voir le Gaethje qu'on connaît, quoi.
Moi, j'y crois zéro, il l'a jamais fait dans sa carrière, il a toujours... En fait, il a toujours refusé de le faire, c'est juste que c'est pas dans son tempérament. Le mec, il a jamais approché le combat comme ça en fait. Il a eu une carrière en lutte, il a terminé, il a mis de côté. Il a dit merci, au revoir, c'est oublié, je suis pas un lutteur en fait. Je suis un combattant debout, je suis un kickboxer qui envoie beaucoup son anglaise et pas mal de low kick. Et il a jamais montré autre chose que ça, il a jamais essayé d'initier un takedown, peut-être un je crois. Non, c'est un combattant qui boxe, qui combat, il va combattre. Et puis Gaethje, c'est un combattant qui croit énormément en lui-même et en sa capacité à mettre KO n'importe qui. Donc C'est ce qu'il va faire, c'est son tempérament. Et c'est un mec qui préférera perdre comme ça, plutôt que de gagner en luttant et tout. Donc
Ouais, surtout qu'il est en fin de carrière. Alors justement, cette fin de carrière, il y a aussi plus de lenteur, les réflexes qui forcément sont un petit peu touchés, le menton qui est peut-être un peu moins résistant qu'avant, mais il reste sur une victoire. Donc mentalement, ça va être important pour lui d'avoir la confiance, de dire si ça va en synchrone, je vais être capable aussi de pouvoir tenir, je vais être capable de pouvoir faire certaines choses là où on ne m'attend pas. Donc intéressant. On va voir mentalement. Moi, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de mental, mais j'ai dit, moi, je pense que Gaethje, peut-être que mentalement, il va être fait d'un autre bois par rapport aux grosses échéances qu'il a loupées précédemment dans sa carrière. En revanche, le mental de Topuria est trop fort, donc je pense que, de toute façon, nos pronostics sur le main et sur le co-main sont assez clairs.
Ouais.
Et que on voit, sans chauvinisme aucun d'ailleurs, mais moi, je vois aussi Gane qui va l'emporter contre Poatan, le vrai poids lourd hein, d'ailleurs, parce que voilà, c'est aussi la donnée intéressante et importante de ce combat, même si on aura un Poatan vraiment prêt et
complètement... Je compte beaucoup plus de chance à Poatan que j'en donne à Gaethje, par exemple.
Voilà. Oui. Voilà.
Pour le schématiser.
ça me paraît tout à fait évident avec un Topuria qui pour nous deux est très grand favori et a beaucoup plus d'armes techniques pour pouvoir l'emporter sur Justin Gaethje.
Oui, non, mais soyons honnêtes, pour tout le monde, je pense que les analystes, la plupart, verront la même chose. Et si Gaethje gagne, ce sera une des plus grandes surprises de l'histoire de ce sport, au même titre que Matt Serra qui a mis KO Georges Saint-Pierre.
C'est comme ça que je le vois, tout à fait, une des plus grosses surprises évidemment si c'est le scénario que tu viens d'évoquer qui se passe. On descend un peu la carte et on va faire un mot quand même sur chaque combat.
Yes.
Juste derrière, alors ils ont mis Sean O'Malley, ce qui prouve que Sean O'Malley est encore un garçon qui fait vendre, un mec qu'on peut mettre en haut de l'affiche parce que être troisième combat en ordre d'importance, c'est assez gros pour Sean O'Malley qui combat Ayman Zahabi.
Ouais.
Ce combat-là entre l'ancien champion des moins de 61 kilos contre Ayman Zahabi, est-ce qu'il te plaît ? Est-ce que c'est un combat que techniquement tu as envie de voir ?
J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait O'Malley Sandhagen et je comprendrai jamais. Sandhagen non plus ne comprend pas, les fans ne comprennent pas. Enfin,
surtout qu'il faut dire, bizarre. Zahabi, c'est pas un vendeur de tickets.
Non, mais t'as Sandhagen, c'est un américain en plus.
Voilà.
Je comprends pas. Ouais. C'est trop bizarre. Mais bon, ok. Mais une fois que t'as passé cette surprise-là, le combat est cool parce que Zahabi, il est sur quand même une bonne série de victoires. C'est un combattant qui est quand même agressif, qui a trouvé un style là récemment qui lui permet de beaucoup avancer, beaucoup striker sur ses adversaires. O'Malley, il adore ça, il adore reculer, sniper, donc prendre son temps, être patient. Donc ça va être un combat debout qui devrait être relativement fun. C'est pas le combat que j'attends le plus, mais ça devrait être fun.
Sur Tapology, les fans qui ont voté donnent 93% de chance de victoire de O'Malley.
Oh, faut pas sous-estimer Zahabi comme ça.
Je trouve ça énorme quand même.
Non, le momentum, il est plus pour Zahabi que pour O'Malley. Parce qu'il est actif, il a combattu des mecs et battu des mecs très forts, très durs. Je serais pas du tout.
93, ça me paraît beaucoup. En plus, je pense que Sean O'Malley, il a été extrêmement touché par ses deux défaites contre Merab. Je pense qu'il a même changé son personnage, il s'est calmé, il a plus privilégié le côté père de famille, le côté bon mari, essayer de calmer certaines choses dans sa vie. Donc. Depuis il a pris une victoire, mais je ne sais pas si elle est suffisante pour le remettre sur des rails aussi positifs que la série de victoires sur laquelle il était quand il est devenu champion.
C'est une bonne victoire contre Song Yadong, c'est une bonne victoire qui a déjà rebondi d'ailleurs et déjà gagné. Donc maintenant il a été prudent, on l'a vu, il a été prudent, il s'est lâché un petit peu plus sur la fin du combat. Il a été précis, il a été efficace, mais voilà, c'est pas un combattant. On n'a pas vu un combattant qui cherchait à être agressif et à descendre son adversaire.
Ouais.
Il cherchait vraiment juste à gagner, il voulait absolument gagner. Maintenant, il aura plus de confiance contre Zahabi. O'Malley, contrairement à ce que je peux penser de Geji au niveau mental, je crois que lui, il est plus transcendé par ce genre d'événement. Lui, ouais, ouais, lui il le vit bien. Donc, lui, ça devrait l'aider. Maintenant, Zahabi et Ayman, aidés de son frère Firas, on sait que c'est des combattants, c'est des gens qui sont toujours très bien préparés, qui préparent très bien leur combat stratégiquement, physiquement, tout ce qui va avec. Je pense que Firas, il aura concocté quelque chose d'intéressant pour battre O'Malley. Pourquoi pas utiliser beaucoup la lutte ? Parce qu'on a vu que c'est compliqué pour lui quand quelqu'un le lutte et essaie de le soumettre, et Zahabi sait faire.
Ouais. Alors pareil, hein, peut-être qu'à l'image de Cyril Gane qui a vécu ça aussi, se faire battre à cause de la lutte, peut-être que vu ce qu'il a vécu contre Merab deux fois, Sean il a axé sa préparation là-dessus en disant que peut-être que Ayman allait venir sur ce domaine-là. Et puis en plus Ayman, c'est, on l'a vu sur ses combats contre Aldo par exemple, c'est, il peut aller à la décision, il est capable d'être constant sur 15 minutes, donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Toujours est-il que Sean O'Malley paraît largement favori, en tout cas aux yeux des fans, et il est quand même en troisième combat en ordre d'importance contre Ayman Zahabi. On descend la carte, alors là c'est l'ajout de dernière minute. À la base il y avait six combats et finalement il y en a un septième qui a été ajouté parce que Dana White a dit je veux voir combattre Derrick Lewis. Ah tiens, il y a Josh Okit qui fait un beau spectacle devant moi à Miami, bah du coup on va demander à Dana White de le mettre sur la carte.
Faites le combat messieurs tout de suite.
Okit contre Lewis, ça peut être drôle. Voilà.
Ça va être drôle. On va pas revenir, j'ai déjà dit tout ce que j'avais envie de dire sur Okit, sur l'extra, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Le combat en lui-même, il va être intéressant. Maintenant, en toute franchise, je pense qu'Okit va tabasser Lewis.
Tu crois? Là où je te suis, c'est que Okit, faut pas le sous-estimer.
Pas du tout.
Parce que vu ce qu'il a fait, pour un poids lourd, c'est un mec qui bouge bien, c'est un mec qui encaisse très bien. Voilà. C'est un mec qui, pour le coup, on parle beaucoup de mental depuis tout à l'heure, mais qui, à mon avis, a un très gros mental. Et du coup, face à un Derrick Lewis, forcément un peu fatigué.
Ah, il est enfin, Lewis. Il se dit, merci pour le bifton, je viens. Pour le bifton, l'exposition, je viens, clairement. Mais rappelons-nous sa dernière performance contre Waldo Cortés Acosta. Où il se met le cul par terre sur un jab. Attention, c'est des poids lourds, je sais ce que c'est, ça frappe un poids lourd. Mais là, la séquence du chaos, c'est un abandon. Il a vraiment abandonné mentalement contre Waldo Cortés Acosta. On sent que Lewis, il a toujours été inconstant. Son punch, il est là. C'est le propriétaire du record de chaos à l'UFC, c'est pas pour rien. Mais voilà, là, je pense que c'est dur. Et face à lui, il aura un combattant athlétiquement dans son prime, extrêmement rapide, on l'a vu. Contre Curtis Blaydes, il va très très vite au kit. Avec les mains, avec ses déplacements, avec ses pieds, ça va vraiment très très vite. Contre Blaydes, il avait décidé de ne pas défendre au kit. Il a pris des patates.
Les mains blessées, la tête en
avant. Il voulait faire un spectacle.
Ouais.
En fait, c'était son CV, il l'a posé pour la Maison Blanche, il a eu ce qu'il voulait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je crois que là, il va être un petit peu plus diligent. Et s'il le fait, s'il est un peu plus discipliné, franchement, je vois pas comment Lewis lui pose des problèmes. Il ira trop vite.
Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que j'allais dire. La rapidité de Okit, à mon avis, pourra avoir raison de Lewis sans trop de difficultés. Et en plus de ça, il y a un enjeu, je pense, pour Okit, parce qu'au final, quand on regarde ce qui se passe chez les poids lourds, grosse performance ici à la Maison Blanche contre Lewis, va savoir que soit lui le prochain contender si Aspinall il est out. Tu vois, dans les 6 mois, le prochain contender à la ceinture des lourds, ça peut être Josh Okit.
Moi, je l'ai dit à un pote avant-hier, si c'est pas Aspinall qui combat pour le titre, ça veut dire que ça se passe mal au niveau contractuel, ce sera Okit.
Mais en fait, Okit, il a beau être énervant, mais je te jure, je suis en train de rigoler en pensant à un Poatan Okit ou à un Gan Okit. Mais c'est un truc que j'ai envie de voir, en fait, tu vois. On va dire les mots, il est débile, il est débile et il joue le débile, il le surjoue.
Il joue
aussi.
Le débile en tout cas.
Mais comme tu dis, il pose un CV sur la table, que ce soit en conférence de presse ou dans la cage, il pose un CV sur la table, il dit maintenant vous aimez ou vous aimez pas, vous adhérez ou pas, mais je suis comme ça et je le surjoue et je fais le spectacle. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à la Maison Blanche.
C'est un jeu complètement débile auquel lui a choisi de jouer, mais comme il y joue bien, il gagne. Et il a des opportunités que d'autres n'ont pas parce que c'est comme ça que le jeu est construit aujourd'hui.
Ah ouais.
Certains choisissent de ne pas jouer et je les comprends parfaitement. Lui, il joue plus que le jeu à fond et ça fonctionne pour lui. Et en plus, dans la cage, comme il délivre, ça lui permet de sauter les marches 4x4 et d'arriver là où il est aujourd'hui.
Le Cyril Gane Josh Okit au Madison Square Garden au mois de novembre.
Ah, ce serait sympa, mais soyons clairs. Cyril, il va l'envoyer sur Saturne.
Là, oui.
Et il n'y voyait aucun chauvinisme.
Pas sur Derek Lewis.
Mais ouais, c'est pas Derek Lewis. Hein. Moi, je te le dis.
Mais scénario à mettre de côté, parce que finalement, ça pourrait se passer en fonction du destin d'Aspinall.
Bien sûr.
Parce qu'avant au kit, en fait, qui mérite un title shot, tu vois, c'est
bah, t'as Waldo, Cortés Acosta qui est là, mais ça vient de perdre. Enfin, ouais, c'est la mélasse un peu.
Volkov qui est toujours présent.
Ouais,
mais
bon, c'est...
Est-ce qu'ils vont le mettre sur un title shot vu les prestations qu'il fait, c'est pas dit. Donc voilà, scénario à bien mettre de côté pour un Okid qui, en fonction de grosses performances contre Derek Lewis, aura quand même battu, mine de rien, Curtis Blaydes et Derek Lewis d'affilée. Il aura accroché deux très gros noms à son palmarès et donc ça pourra lui donner peut-être certains passe-droits auprès de l'UFC. On descend sur la carte, tu vois, ça c'est un combat que j'aurais bien mis à la place du O'Malley Zahabi, Chandler contre Ruffy. Je trouve que ça méritait, ouais. Peut-être que ça avait plus sa place, un peu plus haut placé.
Un peu plus haut, ouais.
Ouais, par rapport à Chandler qui est peut-être, je sais pas, ça vend moins qu'O'Malley, ça c'est clair. Et puis sportivement, il y a quand même beaucoup moins de victoires sur ces derniers combats pour Michael Chandler. Malgré tout, c'est un combat qui peut être assez spectaculaire avec un Ruffy qui va venir plein de confiance. Vu sa dernière performance qu'il a réalisée, forcément.
Il a reconstruit contre Fiziev,
ça va lui apporter beaucoup de confiance. Ouais. Ce combat-là. Te chauffe pas, envie de le voir. Michael Chandler, peut-être pas méritant, peut-être le pauvre. Il a, en fait, sa fin de carrière était gâchée par Conor McGregor.
Oh, par lui-même. Hein.
Par lui-même. Mais bon, 3 ans attendre Conor McGregor, à espérer ce gros chèque qui va arriver, avoir plein d'espoir et finalement à te faire taper par des mecs qui t'apportent pas autant de lumière, ça doit être très dur mentalement ce qu'il a vécu.
Ah, c'est très dur. J'ai pas envie de l'accabler, mais j'ai pas non plus envie de l'exonérer, Michael Chandler. Voilà. Lui aussi, il a joué au jeu, comme eux tous. Lui, il a joué le jeu du premier de la classe, du délégué de classe de devant. Qui dit moi je suis le compagnie man, faites ce que vous voulez de moi, il n'y a pas de problème parce que j'aime la compagnie et j'aime l'Amérique. Ok, c'est bien d'être dans ce rôle là et tout, sauf que tu as perdu beaucoup de temps et à ton âge tu n'avais pas de temps à perdre. Et derrière, au final tu n'as pas eu ce que tu voulais. Au moins tu as la Maison Blanche, tant mieux. On lui met Ruffy en face, donc s'il venait à battre Ruffy, bah, ce serait très intéressant pour lui. Ça le mènerait à un title shot, non. Donc en vrai, ça lui ferait gagner des places au classement, mais c'est tout. À 40 ans, j'imagine que c'est parce que Chandler voulait à ce moment-là. C'était un super fight dont qu'il voulait contre Conor. Là, c'est plus compliqué, sachant qu'il est, si je dis pas de conneries, sur quoi 5 défaites là, sur les 5 dernières années, je crois, c'est ça ?
Ouais, je crois qu'il doit être sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats.
Ouais, tu vois. Et sa victoire, c'est Tony Ferguson.
Ouais.
Et je crois que c'était quoi, la 8e défaite là, de Ferguson, la 7e, je sais
ouais,
plus.
Ouais, c'est sur cette série qui est terrible.
Donc ouais, non, il est dans un mauvais moment de sa carrière, Chandler. Maintenant, tant mieux pour lui qu'il ait ce showcase-là, parce que c'est un Américain patriote, fier.
Ouais.
Et puis il a une très belle carrière, Chandler. C'était un super combattant au Bellator, rien à dire. À la fin, ce sera un des combattants de poids léger qui aura compté pour le MMA. Et voilà, qu'il fasse son showcase, qu'il se fasse plaisir. Le problème, c'est que Ruffy va venir pour lui décrocher la tête et je crois qu'il va parvenir à lui décrocher la tête.
Ouais, ouais, parce que les options qu'il avait, tout pousse à croire que BSD a été proposé aussi à Chandler et que BSD n'a pas voulu combattre aussi rapidement.
Pour moi, très bon choix.
Ouais, bah bien sûr, quand on voit que BSD il va prendre un mec mieux classé un mois après sur une carte de McGregor.
Sur la carte de McGregor.
Même au niveau d'exposition, c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal.
Parce que t'es en co-main en plus, donc c'est autre chose. Et puis, tu vas affronter un mec qui est aussi accessible pour toi. Mais donc, on était un petit peu étonné de se dire mais pourquoi BSD n'est pas sur cette carte ? Elle était taillée sur mesure pour lui. Finalement, quand on a su l'annonce qu'il y a eu après, on peut se dire qu'il a bien fait de ne pas accepter ce combat.
Et si vous avez raté l'épisode où Charles et moi on en parle, mais très brièvement, moi je comprends parfaitement son choix. C'était le choix le plus logique à faire parce que BSD, il n'est pas dans le business là, de faire du super fight d'image. Il est dans le business de devenir champion. C'est ce qu'il essaye de faire, c'est son ambition. Et aujourd'hui, il est dans le top 5. À aucun moment, tu vas prendre Michael Chandler, même si l'event est cool, même si etc. Le gars, il est dans une ascension qui peut lui permettre de devenir champion. Donc, il faut cette chance. Ça marche pas ? Ok, ben, tu iras faire. Il y aura bien un autre event, hein, un truc comme ça, un peu bizarre. Il y a eu la sphère, il y a eu les trucs. Mais là, il y a une opportunité d'aller faire bien mieux que ça. Il faut aller faire bien mieux que ça.
Ouais, et puis Michael Chandler, qui est plus au niveau de la quarantaine, BSD qui a eu 30 ans il y a quelques mois. Donc, il y a aussi beaucoup d'espoir et d'avenir qui s'ouvre à BSD. Enfin, voilà,
et puis, franchement, c'est mieux pour la santé de Chandler.
Et puis, c'est mieux. Ouais, enfin, prendre Ruffy, du coup, ça s'annonce pas forcément.
Franchement, BSD, il aura fait des choses.
Sale.
Pas très prime television.
Chandler. Pas très Maison Blanche sur un Américain.
Voilà.
Bon, en parlant d'Américain, justement, le seul combat, je crois, avec deux Américains, Bonical contre Dokos, c'est ce qui nous attend sur le deuxième combat de cette carte de la Maison Blanche. Bonical, c'était l'espoir américain,
oui,
c'était
oui.
L'universitaire qui arrivait à l'UFC, qui allait tout casser, qui finalement s'est pété les dents contre The Reader.
Sur le terrible champion kickboxing voilà. The Reader, ouais, je rigole.
Contre The Reader qui est monté de catégorie depuis, ouais. Qui a perdu, etc. Bonical, Dokos, bon, c'est un match-up qui devrait pouvoir lui profiter.
Oui.
Malgré tout, il y a de l'enjeu pour sa carrière personnelle. Là, une défaite, ça lui ferait très très mal à Bonical.
Là, par contre, c'est le combat d'image par excellence pour Bonical. Pour lui permettre de devenir la star américaine. Donc oui, clairement, pour lui, il faut gagner ce combat, il n'y a pas de choix. Et puis derrière, il va devoir retourner au charbon contre quelqu'un qui est bien classé devant lui, dans une catégorie qui est quand même pas mal compliquée. Donc ouais, il a besoin de gagner ce combat-là, ça ferait grosse tâche pour lui. S'il perdait contre Dokos sur cet événement-là, là, je crois que c'est un peu... il recule de 20 pas s'il perd.
Le vrai niveau de Bonical en MMA, tu crois qu'il se situe où?
Ah, c'est difficile à dire parce que moi je suis pas sensible à son niveau de lutte. Je sais que c'est très fort, je sais, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi je peux me fier qu'à ce que j'ai vu dans la cage jusqu'ici. C'est un combattant solide, qui a montré de belles choses, qui progresse debout, qui a sa lutte évidemment pour le servir. Mais il arrive dans un mauvais moment parce que la catégorie des moyens actuels, c'est une des plus fortes de l'histoire du MMA actuellement, la catégorie des moyens. C'est très difficile, tout le monde est très dur. Et si tu me demandes si, puisque de toute façon on est dans une émission française, donc je fais ce que je veux comme comparaison.
Nassourdine.
Mais si tu me demandes si tu l'opposes à Nassourdine demain, bah, ça va être très compliqué pour Dokos.
Trop compliqué. Et pour Dokos.
Dokos, je t'en parle même pas. Mais moi, c'est un petit peu ma boussole. Et voilà, Nassourdine, c'est top 3 UFC aujourd'hui. Est-ce qu'il a le niveau top 3 Nickel? Non, pas encore.
Ouais, Bonical, combat très important pour la suite de sa carrière, pour se replacer, pour prouver qu'il va pouvoir revenir et réespérer un top 5 dans la catégorie des moins de 84. Et on espère pouvoir voir certains axes de progression chez l'Américain. Premier combat, et donc premier combat de la carte de cette UFC Maison Blanche, et donc dernier combat qu'on va aborder aujourd'hui, Diego Lopez contre Steve Garcia. Diego Lopez, actuel numéro 2 de la KT, me semble-t-il.
Ouais.
C'est vrai que... Il sortait de ces deux défaites contre Volkanovski.
Ouais.
Gros update contre Jean Silva. Et donc, forcément, un Diego Lopez qui est revenu un petit peu dans les petits papiers et qui a montré que même il était capable de recomposer après ses défaites très importantes, après toute la confiance que lui avait donnée aussi l'UFC.
Ouais.
Ça a été important de pouvoir battre Jean Silva.
Ouais, c'était important pour lui. Après, voilà, Diego Lopez, il a montré certaines limites contre Volkanovski, mais Volkanovski, c'est un combattant légendaire. Par contre, contre les combattants agressifs contre Jean Silva, il aura toujours à tirer son épingle du jeu. Là, il est face à un combattant qui aime beaucoup descendre ses adversaires ces derniers temps. Steve Garcia descend la plupart des gars. C'est un combattant très excitant. Moi, j'aime beaucoup ce combattant. Donc, c'est le combat d'ouverture parfait, je trouve. C'est le combat d'ouverture parfait pour chauffer tout,
ouais,
le monde
bien.
Et tout, tu vois.
Ouais.
Ça va être une bonne bagarre. Et le vainqueur devrait se rapprocher d'un combat pour le titre. Donc, c'est intéressant. Ouais, pour les...
c'est un garçon qui est trop sous-coté, tu trouves, Steve Garcia, pardon.
Ouais, c'est la faute de l'UFC. Ils le font, regarde comment ils le font combattre. À l'Apex, dans des Fight Night, un petit peu. Alors que c'est un combattant. C'est un combattant prime télé, c'est un combattant numéroté. C'est un combattant qu'il faut mettre sur des numérotés, sur des main cards. Donc là, il y a certains qui vont le découvrir, je pense.
Ouais.
Et qui vont découvrir un mec qui est super fun à regarder combattre. Et Lopez aussi, de toute façon. Donc encore une fois, c'est le combat d'ouverture parfait, je trouve.
Voilà pour cette preview de cette UFC Freedom 250, ouais. Avec les deux combats principaux qu'on a abordés en priorité, Topuria contre Gaethje. Pereira contre Gann, le dispositif, encore une fois, suivez-le sur MC Sport, il va être assez incroyable. 5 reporters, journalistes, community managers qui seront sur place pour vous faire vivre les insights. Je sais qu'il y a aussi une visite de la Maison Blanche qui est prévue, donc il y aura aussi un peu d'histoire.
Ah d'accord, moi, je
ne
savais pas.
Okay. Ouais, je pense qu'ils vont avoir la chance aussi de pouvoir visiter certains endroits de la Maison Blanche. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer hors
cool.
cadre.
Avec le guide, j'imagine le truc, ça va être trop bien.
Franchement,
alors
je pense
là,
que
vous
ça
voyez, c'était ici que Bill Clinton, ouais. Et Monica Lewinsky.
Ouais, exactement. Ouais. Oula, si on commence à faire les histoires de
ah bah écoute,
voilà, parce que Kennedy tout ça, il va y en avoir du beau aussi à l'époque. Marilyn Monroe est passée juste ici. Bon, en tout cas, je sais pas si on aura le droit de filmer d'ailleurs dans la Maison Blanche. C'est pas sûr, mais en tout cas, les journalistes qui ont assisté à tout ça pourront nous rétribuer ce qu'ils ont vécu. Et donc, tout ça qui va nous amener à la prise d'antenne dans la nuit de dimanche à lundi, dans la nuit du 14 au 15 juin.
On réserve de belles surprises en plus sur l'émission. Donc,
oui, belles surprises, des invités avec le plus grand plateau qui a été mobilisé pour l'occasion. Et donc, évidemment, beaucoup de surprises et beaucoup de contenu à voir avant combat et aussi pendant les combats. Évidemment, Baba, tu seras en plateau, je crois.
Yes!
Voilà,
bien accompagné.
Avec Thomas Desson et beaucoup d'invités. On
vous l'a dit sur Facebook.
Évidemment, Antoine et Taylor aux commentaires qui cette fois-ci sont filmés. Ils ne sont pas sur place parce qu'on n'a pas eu les autorisations d'avoir des post-com autour de la cage de la Maison Blanche. Mais ils seront filmés cette fois-ci normalement. Donc on les verra de leur cabine commentaire.
Ah bah venez en costume, les gars.
Voilà. Ah bah cette fois-ci, ouais, les jogging Venom d'Antoine quand il vient commenter la nuit, c'est terminé.
C'est clair.
Bon, Baba, merci à toi pour ton retour de vacances d'avoir fait ce preview très complet sur l'UFC Freedom 250. Et évidemment, on se retrouve très vite pour le RMC Fighter Club. Ciao.
Salut.
RMC Fighters Club.